Dévoilement de Dieu au 106. Les deux vignes. La vraie vigne, unie à la parole, la fausse vigne. Unie à l'organisation. Juillet 14. 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin, nous prendrons une autre caractéristique des deux vignes où la vraie vigne et la fausse vigne s'opposent. La meilleure écriture pour illustrer cela, c'est probablement là où Jésus lui-même nous dit cette différence entre la vraie vigne et la fausse vigne. Jean 3.14 est comme Moïse, et il voit le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16 car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'y périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement s'estère que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal acquiert les lumières, et ils montrent cette haine de la lumière dans leurs actions, car ils continuent et n'y vient point à la lumière. Et pourquoi haïssent-ils la lumière? La vraie parole confirmée de Dieu, parce qu'elle montre qui ils sont vraiment. Et puisque Sester celui qui a dit vous les connaîtrez par leurs fruits, il poursuit de peur que ses œuvres n'aient soient dévoilées, Sester a dire exposé. Pourquoi? Parce que, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 5.13, tout ce qui Esther manifesté est à lumière. Revenons maintenant à Jésus. 21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en leur source en Dieu. En d'autres termes, il croit ce que Paul a dit dans Philippiens 2.13 Sester Dieu, qui produit en eux à la fois le vouloir et le faire. Non seulement, il ne s'attribue pas le mérite des choses que Dieu fait en eux et à travers eux, mais il donne à Dieu tout le mérite, et eux-mêmes, Néhémie, sont que des vases entre les mains d'un Dieu puissant. Dans cette étude, nous examinerons la vraie vigne et comment ils sont attirés par la parole de Dieu de l'or dans laquelle ils vivent. Mais d'un autre côté, nous verrons comment les fausses vignes repoussent effectivement la parole de Dieu avec dégoût et comment ils sont plutôt attirés par l'organisation. Éphésiens 1.10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous voyons donc la promesse faite qu'il y aura un peuple qui sera rassemblé à Christ, et n'oublions jamais que Christ est la parole. Ainsi, nous voyons la promesse faite qu'il y aura un peuple qui sera réuni en Christ, et qui n'oubliera jamais que Christ est la parole. Dans l'évangile de Marc, nous entendons Jésus lui-même nous dire qu'il utilisera des messagers pour rassembler les élus des quatre vents, coins, de la terre. Marc 13.27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Encore une fois, nous entendons Jean-Baptiste nous dire que lorsque le Messie viendra en tant que Fils de l'homme, il amassera le blé dans son grenier. Nous voyons donc qu'il doit y avoir une réunion avec lui. Luc 3.10 A-t-il à son vent à la main? Il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu, qui n'est mis c'est un point. Nous le voyons aussi dans Matthieu 3.11-12 Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne m'y suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 12 Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu, qui Néhémie 7.1. Jusque-là, ces écritures nous ont dit qu'il y aura un grand rassemblement, réunion. Mais pour le moment aucune Néhémie nous a dit quand il en sera ainsi. Mais maintenant, nous nous tournons vers l'apôtre Paul et allons dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, où il nous dit quand cela aura lieu. De Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion, rassemblement, avec lui, nous vous prions, frères, et bien sûr, Paul nous met également en garde de Néhémie pas abandonner le fait de se réunir, de s'assembler dans Hébreux 10.25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme s'estère la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Maintenant, dans Matthieu 13, Jésus nous raconte la parabole du blé et de l'ivraie et comment, au temps de la moisson, les deux seront amassés. L'ivraie sera d'abord unie à l'organisation, pour être brûlée et le blé sera uni à Christ pour un enlèvement. Matthieu 13.28-30 Il leur répondit, c'est Esther un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« 29 Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines en même temps le blé. » 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez, amassez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler. » Mais amassez le blé dans mon grenier. Par conséquent, nous pouvons voir que les fausses vignes sont amassées dans l'organisation et ce, par la fausse parole de moissonneurs qui sont de faux messagers. Mais les vraies vignes, que sont les élus, sont unies à lui par les moissonneurs, que sont les vrais ministres. Matthieu 13.24-30 Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 Il leur répondit, c'est Esther un ennemi qui a fait cela dans mon champ. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez, amassez, d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Or, je vous ai montré à plusieurs reprises que de lier en gerbe Esther un processus. Esther en fait une obligation envers un système organisationnel, qui Esther un regroupement, et son objectif Esther d'accélérer le processus de combustion. Et nous avons constaté dans cette étude que de lier en gerbe Esther un processus en deux étapes. D'abord, on lit, et Esther à dire qu'on met sous obligation, et les gerbes sont les moyens par lesquels l'organisation met ensemble le sacrificateur comme le peuple pour faciliter la combustion. Osée 4.6 Mon peuple Esther détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance, de quelle connaissance s'agit-il? Il a dit, « Je n'ai jamais connu. » Par conséquent, ils sont détruits parce qu'ils n'ont pas la connaissance de sa présence. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. N'est-ce pas exactement ce que Jésus a dit, « Toi qui prêches et qui prophétises, et qui chasses les démons et qui fais beaucoup de grandes choses, et qui rassemble un grand nombre de gens, Éloigne-toi de moi car je connais tes motifs et je sais pourquoi tu n'es mis, parleras pas aux gens de ma présence et que tu n'es mis déclareras pas ma divinité parmi les gens. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Maintenant, remarquez attentivement le prochain verset. Cette plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, et qu'est-ce que le péché? C'est-ce l'incrédulité, je changerai leur gloire en ignominie. 8. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces, ils ont mis leur cœur sur leur iniquité. Et que représente le cœur? Leur compréhension. Ils ont donc mis leur compréhension sur leurs iniquités, ces choses qu'ils savent devoir faire mais refusent de les faire. Et quelle est-elle la raison de cette grande multiplication? 9. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Matthieu 13.36-43. Alors il renvoya à la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. 38. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Bon. Voilà donc votre vraie vigne et votre fausse vigne dans le même champ. 39. L'ennemi qui l'a semé, l'ivraie ou la fausse vigne, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Encore une fois, nous voyons dans la lettre de Paul aux Galates cette idée des deux vignes et les motifs de la fausse vigne. Galates 2.4. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Et encore une fois, nous voyons cela dans Actes 13.45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Ce qui est de parler de manière offensante contre Paul. Et nous voyons aussi cela dans Actes 15.5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 64 au paragraphe 153. Souvenez-vous, l'Église a commencé à la Pentecôte, et elle est tombée à Nicée. Elle a germé, pas à la ressemblance du vrai grain. Non, il y avait là une partie de la vie, mais elle a germé pour produire une organisation. Et il s'est retiré de cette organisation. Et puis, qu'a fait la vie? Ensuite, à partir de cette organisation-là, elle est passée à une autre organisation. Et il nous parle également de ses anges et de qui ils sont dans Christ. Esther, le mystère de Dieu révélé. Dîme 28 juillet 63 552. Wesley était un homme de Dieu, mais qu'Esther ce qui est venu après lui. Des anges déchus s'y sont introduits. Qu'étaient d'abord les anges? Des êtres créés par Dieu, mais qui sont tombés à cause de la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu'ils sont devenus? Des anges déchus. Et les organisations. Quand des hommes de Dieu sont sortis pour établir des vérités sur la terre, avant que cette vérité Néhémie puisse continuer son chemin et être proclamée et parvenir à la véritable révélation de Christ, des anges déchus se sont infiltrés, s'en sont emparés pour en faire des dénominations. 553 sesterces la raison pour laquelle la révélation du mystère des sept sceaux devait être apportée. 554 voyez-vous cela maintenant? Ce qu'ils ont laissé de côté. Si Luther avait continué, ça aurait été là. Si Wesley avait continué, si la Pentecôte avait continué, qu'aurait-il fait? Nous en voyons aussi la preuve dès le premier âge de l'Église où l'apôtre Paul en a parlé dans Actes 15, dans Galates 2, dans 2 Corinthiens 11. Et encore une fois, nous le voyons aussi dans Jude 1, et dans 2 Pierre 2 et 3, ainsi que dans Actes 20. Et je me souviens que frère Velmar dit quelques années avant de rentrer à la maison, que les soi-disant croyants se sont emparés du message. Et n'oubliez pas, frère Branham nous a aussi dit qu'il y a deux vignes dans son propre réveil. Ce qui veut dire juste dans ce message. Parce qu'il a dit, chaque réveil produit des jumeaux. Dans son sermon messieurs, nous voudrions voir Jésus mère 8 février 61. Nous entendons frère Branham dire, 17 ans. Les gens sont très religieux, ils l'ont toujours été. Comme j'ai prêché l'autre soir là-bas. Un réveil produit toujours des jumeaux. Comme Esaü et Jacob, un homme du monde. Et l'homme qui désire avoir le droit d'aînesse. Voyez-vous? Cela. Toujours. Sesterces ce que produit chaque réveil. Ce réveil des derniers jours a produit la même chose. Sesterces vrai. Alors, mettons-nous du côté de Jacob, celui qui va hériter, celui qui va entrer dans la terre promise. Et nous n'y pouvons pas nous contenter de fréquenter simplement l'Église, d'inscrire notre nom sur le registre. Si sesterces le cas, il y a quelque chose qui cloche. Montons sans cesse de plus en plus, jusqu'à ce que nous arrivions à cette terre promise. Et l'apôtre Paul nous a dit que les enfants de la prostituée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Il n'est donc pas surprenant que les soi-disant croyants s'emparent de tous les messages que Dieu a apportés à l'homme, en ce qui concerne le nombre. Parce que, admettons-le, là, postérité de Dieu est comparée à des brebis qui sont passives et qui semblent n'aimer pas être des personnes reconnues et socialement importantes. Remarquez comment frère Branham nous a avertis en disant, après que Luther ait quitté la scène, les hommes ont organisé ce que Luther avait enseigné afin de diriger les personnes qui suivaient son message. Puis vint John Wesley qui fut expulsé des églises organisationnelles de son époque. Et ceux qui suivaient son message furent également expulsés ou quittèrent l'organisation. Mais quand cette génération sesterces éteinte, les gens du mouvement de Wesley se sont organisés comme les gens l'ont fait après la mort de Luther. Et ils le font pour protéger le message, ou alors sesterces leur motif. Mais pensez-vous que la parole de Dieu a besoin de notre protection? Lorsque nous en arrivons à penser ainsi, nous n'y croyons plus en un Dieu souverain. Remarquez que la chose même qu'ils ont quittée, sesterces ce à quoi ils sont retournés. Le chien sesterces retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait sesterces vautré dans le bourbier. Ils sont retournés dans ce dont ils sont sortis, l'organisation. Puis Dieu a suscité un autre groupe de gens qui Néhémie se conformait pas du tout au groupe organisé et qui Néhémie pouvait pas supporter cet esprit de l'organisation. Ces gens savaient que Dieu avait plus pour eux que la simple portion de la parole qu'ils recevaient dans les institutions organisationnelles. Alors ils ont quitté le mouvement méthodiste. Et Dieu leur a restauré les dons de l'esprit. C'était la restauration de l'expérience de la Pentecôte. Et une fois que cette génération sesterces morte, une génération d'individus moins sûrs sesterces apparus, qui ont également essayé de diriger ce mouvement de Dieu, en l'organisant, et de diriger les gens qui en faisaient partie, alors le mouvement pentecôtiste, qui pourtant fut initié par Dieu, fut organisé par l'homme et quand ils l'ont fait, le mouvement sesterces mort à ce moment-là. Maintenant, J'appelle chaque génération une génération moins sûre parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Et quand les enfants sont élevés dans un environnement d'église, ils sont dans un environnement protecteur, qui est stérbant d'une part. Mais si en Néhémie leur montre pas où se tenir par la parole de Dieu, alors ils Néhémie sont rien de plus que des membres d'église, agissant par routine parce que d'autres agissent par les mêmes routines. Les enfants de Dieu sont tous nés du même esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et le problème que nous avons est que nous Néhémie nous attendons pas à ce que nos enfants n'arrivent à une naissance comme nous, parce que chaque naissance est une chose pénible. Et nous Néhémie voulons pas que nos enfants souffrent. Mais ils doivent souffrir s'ils veulent naître de nouveau. Le petit oiseau qui Néhémie se fraye pas un chemin hors de sa coquille à coups de bec n'y arrivera jamais. Les coups de bec construisent sa détermination et sa force. Et sont ses qualités. Les enfants Néhémie réussiront pas à traverser le chemin difficile qui leur est réservé pour imprégner en eux le caractère. Parce que le caractère n'est jamais un don, c'est une victoire. C'est ce que frère Branham nous a enseigné dans l'exposé. Frère Branham nous a enseigné que chaque naissance est un gâchis. Et si nos enfants naissent dans le message et n'ont pas leur propre expérience personnelle avec Dieu, alors nous, en tant que parents, devrions leur parler de la nécessité d'une marche individuelle, et pas seulement de suivre le groupe. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3.12. Maintenant, pour revenir à notre contraste avec marcher dans la lumière, contre suivre simplement la mentalité du groupe, qui consiste à se conformer sans réfléchir aux opinions majoritaires de l'organisation, il nous faut prendre pour exemple le mouvement pentecôtiste quant à la façon dont les hommes essaient toujours d'organiser les mouvements de Dieu. Une fois que le mouvement pentecôtiste s'est organisé pour contrôler l'expérience avec Dieu, et donc contrôlés par leur doctrine, qu'ils avaient et qu'ils Néhémie l'avaient pas, ils ont utilisé cela dans les églises pour contrôler le peuple. Je n'oublierai jamais quand j'étais au secondaire, j'ai visité le séminaire pentecôtiste uni que l'un de mes voisins fréquentait. Il m'a dit qu'ils avaient des réunions à l'église le vendredi soir, et j'y suis donc allé la première fois que j'ai franchi la porte. J'ai été accueilli par deux ou trois hommes qui m'ont demandé si j'avais le Saint-Esprit, et j'ai répondu non, mais que je cherchais le baptême de l'Esprit. Ils m'ont demandé si j'ai déjà parlé en langue et j'ai dit oui, parce que dans mon cœur je savais que je pouvais dire plusieurs mots dans plusieurs langues, et j'étais assez bon en français et ce sont d'autres langues. Et donc j'ai dit oui. Ils m'ont dit, alors tu l'as? Et je savais que je n'ai mis l'avait pas. J'en savais suffisamment pour avoir lu la Bible, que ce n'est pas, parce que vous pouvez être loin pour faire une certaine chose, que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai lu là où Jésus a dit à Pierre qu'il avait suivi pendant 3 ans, quand tu seras converti, à faire ami tes frères. Et je savais que je n'avais pas encore été converti, ce qui signifie être changé. Alors jeunes gens, peu importe depuis combien d'années vous suivez Jésus, comme Pierre l'a fait, et peu importe depuis combien de temps vous suivez cette colonne de feu, je vous demande juste une chose. Quand avez-vous été converti? Assurez-vous d'être converti, et nous savons tous qu'une conversion parle d'un changement. Quand Christ entre dans votre vie et que vous Néhémie, pouvez pas vous éloigner de sa présence, parce que vous avez tellement faim et soif d'être comme lui, vous pouvez alors savoir avec certitude que vous êtes converti, ou que vous êtes en train de l'être. Car Jésus nous a dit que tous ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui espèrent la juste sagesse, seront rassasiés. Alors Néhémie, vous contentez pas d'une mentalité de groupe. Soyez une personne qui suit la conduite du Saint-Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc nous voyons que dans chaque mouvement de Dieu, Les gens qui sont fils et filles de Dieu sortent de l'organisation parce qu'ils voient comment cela étouffe la parole de Dieu. Et comment les gens, par leur tradition, annulent la parole de Dieu. Et en cette heure, ce n'est pas différent. Dieu a suscité un homme simple qui a perçu toute cette mentalité institutionnelle de l'organisation, et il a tout laissé derrière lui, et Dieu a manifesté sa présence dans le ministère de cet homme. C'est à William Branham, le prophète de Dieu. Et les gens sont sortis des organisations pentecôtistes et les ont laissés mourir dans leur système organisationnel. Mais la parole de Dieu est passée à autre chose. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment où cette génération, qui se tenait dans la présence de la colonne de feu, qui a défié l'organisation, et qui en est sortie, c'est presque éteinte, et maintenant cette prochaine génération doit faire son choix. Continuera-t-elle d'aller de l'avant avec la parole de Dieu au fur et à mesure qu'elle s'accomplit? Ou succombera-t-elle à ce que toutes les autres générations ont succombé? Les gens qui suivent le message aujourd'hui tomberont-ils dans le même piège organisationnel que leurs ancêtres? Ou vont-ils continuer de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui et tous les jours, et à chaque fois que nous nous réunissons. Pourquoi sommes-nous ici? Sommes-nous ici aujourd'hui pour nous établir? Où sommes-nous ici pour établir la parole de Dieu dans nos cœurs et dans le cœur des gens? Dans son sermon, l'Éden de Satan dit 29 août 65-64 ce qu'il en est aujourd'hui. C'est que nous, Néhémie, cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur de la personne. Nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu. Paul a dit, « Je ne m'y suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs de l'homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance de l'homme, mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec les manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu. » Voilà. 65 O. L'homme Néhémie doit pas s'établir lui-même. C'est ce que nous trouvons parmi. Que Dieu fasse quelque chose pour une personne, qu'il l'envoie. Vous allez voir tout le monde chercher à imiter cela. Voyez-vous, ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun, moi, j'ai fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci, ils s'établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication, nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Établir la parole de Dieu. Ôter l'incrédulité du cœur de l'homme et établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, Néhémie, peut pas être établi dans le cœur d'un homme. À moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il, Néhémie, peut pas être établi dans un. Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c'est que l'homme pense que c'est vrai. Voyez, telle voix paraît droite à un homme. Tout intellectuel semble être dans le vrai. Dans un autre sermon question et réponse dim 28 juin 59, frère Branham a dit, 70 et Nester sont pas exactement ainsi que deviennent les gens aujourd'hui. Que Dieu bénisse seulement un homme et lui fasse un peu confiance. Celui-ci devient un je sais tout. Il devient. Il doit commencer une organisation, ou quelque chose de différent. Pourquoi Ésa es-tu tombé du ciel? Ô Lucifer? 71 Sester. Dieu a du mal à qui à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter? Quelqu'un qui restera humble et doux? Et qui étendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose, vous croyez cela? Voyez-vous? Un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme? Qui Néhémie se fera pas passer pour un ange ou un Dieu? Aussitôt que l'homme est béni et qu'il reçoit un petit quelque chose, il veut devenir un Dieu, il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que je fais, ce que moi, Moi? Mon. Seulement cela. Esther une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut bénir et sur qui il peut déverser les bénédictions. Et à qui? Plus il Esther bénit, plus il devient petit. 72 Et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu à moins de devenir rien. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'humiliera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous n'émisserez jamais grand par vous-même. Vous serez seulement autant grand que Dieu le sera en vous. Voyez? Vous voyez donc à quel point l'organisation Esther contraire à Dieu? L'organisation utilise la puissance du nombre pour conduire les hommes, au lieu de permettre à l'onction du Saint-Esprit sur la parole de Dieu de conduire la vie des hommes. Vous vous souvenez tous de l'histoire de 2 Chroniques 18, où le roi Achab a essayé de convaincre le roi Josaphat d'aller avec lui, pour se battre à Ramoth, en Galade contre les Syriens. Il envoya tous ses prédicateurs, 400 d'entre eux, pour s'enquérir auprès du Seigneur s'il devait aller au combat. Eh bien, lisons cette histoire pendant un moment pour voir comment ces prophètes organisationnels parlent tous d'un seul accord, même s'ils sont complètement en dehors de la parole de Dieu. S'estère cette même mentalité de l'opinion du groupe que Dieu déteste tant, et je la déteste aussi. Écoutez comment frère Branham raconte la même histoire que nous venons de lire. Être persévérant, Sam 23 juin 62 91 c'était Michel Abba. Lorsque Josaphat et Achab. Pourquoi un homme de Dieu voudrait-il faire alliance avec un hypocrite de ce genre-là? Il s'est mis en mauvaise compagnie, comme beaucoup de gens le font, aller parmi les incroyants, là où il y a cet évangile social, une affaire comme celle-là, et vous allez vous embrouiller. Et Josaphat a dit, nous devons monter à Ramoth en Galade. Eh bien, assurément, naturellement, tout. Ils sont allés là et ont pris 400 prophètes bien formés et bien nourris. Ces derniers se sont avancés là. Et ils ont dit, monte. L'Éternel Esther avec toi. Cédécia Esther allait se procurer de grandes cornes et a dit, par ceci tu les boutras dehors. Parce que, pourquoi? Josué avait partagé le pays. Et Ramoth en Galade nous appartient. Cela semblait bien. Voyez-vous? Cela semblait tout à fait logique. Fondamentaliste. Il a dit, tu vas carrément les bouter hors du pays. 92 Vous savez, il y a quelque chose dans une église, dans le cœur d'un homme, qui Esther un homme de Dieu. Josaphat dit, regardez là. Ils étaient 400, et tous étaient d'un seul accord, ils étaient unanimes. Il a dit, eh bien, je sais que, ça doit être juste. Adiachab. Or, nous sommes juifs. Et Jézabel était sur le trône avec lui. Voyez-vous? Il a dit, maintenant, regarde là. 400 prophètes juifs qui disent, monte. Ainsi dit l'Éternel. Mais cela n'est mis, ce n'est pas juste. Et Josaphat a dit, n'en as-tu pas un de plus? Un autre? Pourquoi aurais-je besoin d'un de plus? Alors que nous avons tout le séminaire ici, l'évêque et tous les autres. Pourquoi aurions-nous besoin d'un de plus? Eh bien, a-t-il dit, n'y en a-t-il pas un de plus? Il a dit, si, il y en a un de plus. Mais je le déteste. Oh, a dit Josaphat, que le roi Néhémie parle pas ainsi. Allez le chercher. Esther Miché. Le fils de Jimla. Il a dit, mais je le déteste. Il prophétise toujours du mal acquis contre moi. Il estère toujours là à me reprendre. 93 Oh. Oui. Il taille le maïs. Il enlève toutes les excroissances. Voyez-vous? Tout le monde veut être dorloté et cajolé. Voilà ce qui produit les plantes de serre chaude. On doit les vaporiser avec ceci et avec cela. Le christianisme est rude. L'évangile doit être manipulé à main nue, sans gants, pas en portant des gants ecclésiastiques. C'est vrai. Ces gants blancs et doux, c'est pour les femmes, pas pour les prédicateurs. Non. Écoutez, frère, la parole de Dieu doit être transmise juste telle qu'elle est, pas avec un certain dogme de séminaire qu'on y a injecté, mais là, juste telle qu'elle est écrite ici. 94 Alors le, ils ont envoyé le comité des diacres, et ils lui ont parlé, disant, « Eh bien, écoute, Miché, nous allons te ramener au sein de l'association si tu acceptes simplement de dire la même chose que ce que l'évêque et tous les autres disent. » Là, il s'était trompé de personne pour tenir de tels propos. Miché savait ce que signifiait croire en Dieu. Il a dit, « L'éternel Dieu est vivant, je dirai seulement ce qu'il mettra dans ma bouche. » Oh, frère. Séminaire ou pas de séminaire, collaboration ou pas de collaboration, il a dit, je dirai juste ce que Dieu mettra dans ma bouche. Il a passé cette nuit-là, et il est retourné le jour suivant. Il a dit, monte, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et alors, cet éminent évêque l'a frappé à la bouche et a dit, par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il allé lorsqu'il est sorti de moi? Il a dit, j'ai vu Dieu assis au ciel. Il tenait un conseil. Et j'ai vu un mauvais esprit monter, un esprit de mensonge, qui a dit, je descendrai et j'entrerai dans la bouche de ces prophètes-là, et je les ferai prophétiser un mensonge. Vous direz, eh bien, maintenant, frère, comment pouvait-on savoir si cela était faux ou pas? Pourquoi? La vision de Miché était conforme à la parole. La parole de Dieu avait déjà été prononcée par le prophète, et la parole du Seigneur vient toujours au prophète. Et si le prophète Élie avait maudit Achab et lui avait dit que les chiens lécheraient son sang, comment pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Donc, sa vision était conforme à la parole. 95 Un homme a écrit une lettre l'autre jour. Il a dit qu'il avait un ministère de délivrance. Il a dit, comment pouvez-vous savoir si c'est Dieu ou si c'est le diable qui parle à travers vous? J'ai dit, examinez cela par la parole. Si cela n'est mis s'accorde pas avec la parole, alors c'est faux. Peu m'importe combien cela semble bon. Dans l'Ancien Testament ils avaient un moyen pour savoir si un prophète disait la vérité, ou si le songe du songeur était juste. On amenait la personne au temple et on la plaçait devant l'Urim Thummim. Et si cet Urim Thummim réagissait, et que ce faisceau de lumière jaillissait de cela comme un arc-en-ciel, Dieu reconnaissait que ce prophète, ou la prophétie, ou le songeur, c'était la vérité. Mais si ce n'était pas le cas, peu importe combien cela semblait réel, c'était faux. Cela répondait toujours, Dieu leur répondait par le surnaturel. 96 Je vous dis que ce sacerdoce-là a déjà pris fin, et que cet Urim Thummim-là a disparu, mais nous avons un nouvel Urim Thummim aujourd'hui, et c'est cette Bible. Si un prédicateur ou quelqu'un d'autre prêche un dogme ou quelque chose qui soit en dehors de cette Bible, pour moi c'est faux. Peu importe combien cela semble réel, ça doit être faux. Il doit s'aligner sur cette Bible. Néhémie mélangeait rien à cela. Laissez cela tel quel. C'est de cette manière que Dieu a écrit cela, et c'est ainsi que nous devons accepter cela et croire cela. Oui. 97 L'aveugle. Bien sûr. Il n'était pas capable de discuter de la théologie avec ces gens-là. Mais il était tenace. Il savait qu'autrefois il était aveugle et qu'alors, Il voyait. Assurément. Il Néhémie pouvait pas oublier cette chose-là. Il était très persévérant. Les gens disaient que son père et sa mère. Il disait, tous ceux qui confessent ce prophète de Galilée, nous allons les chasser de l'église. Et alors, ce type s'était accroché à quelque chose. Quelque chose lui était arrivé, et il était tenace. Il pouvait leur parler. Eh bien, il Néhémie pouvait pas. Il a dit, c'est Esther étrange pour moi, car ceci est Esther une chose que seul Dieu peut faire. Et cela Néhémie s'Esther produit dans aucune de nos églises tout au travers des âges, à ce que je sache, qu'un homme né aveugle recouvre la vue. Et vous êtes censés être les conducteurs de gens de ce jour, et cependant vous ignorez d'où cet homme Esther venu? C'est Esther étrange. Frère, il avait quelques bons arguments là. Je pense. Absolument. Et aujourd'hui les gens disent, qu'en est stérile de tout ceci? Et ils ignorent les théologiens, et les autres, que la Bible a prédit que cette chose même se reproduira. Oh! Frère! Combien nous devrions être tenaces! Par conséquent, frère Branham était très préoccupé par cette mentalité de groupe, le politiquement correct, que nous voyons non seulement dans le monde aujourd'hui, mais aussi dans les églises. Et vous savez que cela va toujours à l'encontre de la parole de Dieu pour l'âge en question. Frère Branham aimait m'expliquer ce pourquoi Dieu n'avait pas deux prophètes sur scène en même temps. C'est-à-dire que, bien qu'ils peuvent Néhémie pas être en désaccord sur la doctrine, ils pourraient cependant être en désaccord sur la façon de faire certaines choses, parce que ce sont des individus et que les individus feront les choses comme ils le voient. Quand Élie était prophète, Élisée a été encadré par ce prophète. Quand Jean était le prophète, on Néhémie voyait Jésus nulle part, et quand il était temps pour Jésus d'entrer pleinement dans le ministère, Jean a dit qu'il faut qu'il diminue pour que Christ croisse. Le deuxième sommaire 19 mars 63-54 par exemple, il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile. Il aurait pu mettre choisir la lune. Il aurait pu choisir le levant. Mais il a choisi l'homme. Et il n'a jamais choisi des groupes, mais des individus. Mais l'essentiel est de savoir, comme Paul l'a dit, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié contre ce jour-là. Dans le chef-d'œuvre, frère Branham nous dit que nous sommes la parole. Et si nous sommes une partie de lui et que nous étions en lui avant les fondations du monde, alors s'il est la parole, nous sommes la parole parce que nous étions en lui, ce qui fait de nous une partie de lui. Le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 6455 remarqué, l'épouse. Si l'épouse, au commencement, était la parole, ou l'époux. Alors, si l'épouse Esther tirée de l'époux, elle doit, elle aussi, être la parole. Remarquez, c'est Esther ce que l'épouse doit être. 156 Pourquoi? Pourquoi l'époux doit-il être la parole manifestée? Exposée clairement? C'est Esther parce que l'épouse et l'époux sont un. Elle est Esther simplement un morceau qui s'Esther détachait de lui quand il a été frappé. Voilà le chef-d'œuvre. Il a été frappé. Dire. 157 Michel-Ange Néhémie pouvait pas le reproduire de nouveau. Il Néhémie pouvait pas le remettre en place. Mais Dieu, lui, il va le faire. Il va amener la petite épouse qui a été frappée tout droit aux côtés de la parole originelle. Et le voilà. Voilà le chef-d'œuvre. La famille de nouveau de retour dans le jardin d'Éden. Maintenant, comparez cela avec ceux qui n'ont qu'un esprit de groupe. Vous voyez à quel point ils vivent en dessous de leurs privilèges? Au paragraphe 136 du sermon Le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 64. Fr. Branham a dit, la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même, pour que le Saint-Esprit lui-même descende dans sa perfection, ramenant de nouveau la parole, afin de se manifester. Juste là, nous voyons la différence entre l'apparition et la venue. Nous voyons la parousia de Christ à la perfection, de retour à la parole. Mais écoutez ce qu'il nous dit ensuite. 137 par contre, tout ce qui a formé une dénomination meurt. Par exemple, la vie qui est atteint Luther a servi à former Wesley. Et, de Wesley, elle est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, elle a servi à former la semence originelle. Elle sort du groupe de Wesley, où elle reste jusqu'au moment de passer dans la Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte Esther sortit de Wesley, c'est Esther parce qu'elle n'était pas une dénomination, la Pentecôte n'en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a formé une dénomination, et qu'a-t-elle fait? Elle Esther est devenue la Baal. Elle ressemblait à la chose véritable. Remarquez comment il nous montre la vie qui monte dans une sorte de résurrection, comme la sève qui remonte au printemps Esther une sorte de résurrection, et l'arbre revient à la vie après être resté en sommeil tout au long de l'enterrement hivernal. Il dit que cette vie commence à apparaître dans Luther, puis dans le message de Wesley et ensuite dans le message de la Pentecôte et maintenant elle revient à la parole selon sa nouveau au temps de la fin. Mais ensuite, il oppose le cycle de la vie à la mort montrant que lorsque la vie quitte une chose, cette chose doit mourir. Et il nous dit que l'indication que la chose Esther est morte Esther, qu'elle devient une dénomination ou une organisation. Le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 6438 n'importe qui. Combien ont déjà vu une semence de blé qui commence à pousser? La première petite chose, c'est Esther quoi? C'est Esther tout à fait semblable à la semence, mais c'est Esther la balle. Voyez-vous les trois étapes? La tige, les graines ou le pollen, ensuite la balle. Et alors? De la balle sort la semence originelle. Voyez? Ce n'était pas une semence, c'était la vie de la semence qui se développait à travers ces étapes, pour en arriver à la semence. Amen. Amen. Le voyez-vous? Qu'est-ce? Une résurrection? Pour former de nouveau un chef-d'œuvre? Pareil à celui qui est Esther tombé en terre. 139 La Pentecôte Esther sortie de Wesley. Parce que Wesley était alors une organisation. La Pentecôte, qui n'était pas une organisation, Esther sortie, et après, elle en Esther devenue une. Il le fallait, pour qu'elle forme la balle. La véritable parole de vie qui était sur elle allait donc former le grain originel. À travers ces étapes. Elle Esther alors passée de la tige dans le pollen, du pollen, dans la balle, et de la balle, elle a produit la semence. Encore une fois, nous le voyons apporter cette pensée de la vie de Dieu alors qu'elle remonte à travers les différentes étapes de l'Église. Et chaque étape de ce que le Seigneur a planté Esther identifiait un message qui a balayé le monde. C'était la vie de Dieu balayant toutes les semences prédestinées de Dieu qui se trouvaient dans le monde. Maintenant, au paragraphe suivant, et je n'ai sais pas comment vous pourriez rendre cela plus clair que la façon dont nous l'explique frère Branham ici. 140. Quand elles étaient en vie, elles ont produit au début de leur réveil un porteur d'une certaine partie de la vie de la semence. Mais, quand elles ont formé une organisation, la vie en Esther sortie. Nous en avons la preuve tout au long de l'histoire. Jamais une organisation n'a produit quoi que ce soit après s'être organisée. Elle était morte. Sester exact. 141 Regardez bien. La vie continue son trajet. Là. Elle continue à avancer. 142 Remarquez. Ce qu'elles ont fait. Ce que toutes celles-là ont fait. L'histoire nous prouve que Sester exactement comme ça que sa Sester passait pour les églises. Elle n'allait plus jamais lui être utile. L'organisation était mise au rancard. Tout au long de l'histoire. Il n'y a jamais une église qui n'ait mis soit morte après s'être organisée. L'organisation Esther morte. Et elle n'ait mis Esther plus jamais relevée. Néhémie le voyez-vous pas? Homme aveugle. Ouvrez les yeux. La nature et la parole sont l'œuvre en coordination. Et elle le prouve. Ici même. Que ceci. Sester la vérité. Que Sester la vérité. La vie sort de la tige pour former les grettes. De la grette. Elle forme la balle. Et de la balle. Elle prend de nouveau forme dans le grain originel. Remarquez. Elle n'allait jamais plus lui être utile. Maintenant, je n'ai sais pas à quel point une personne pourrait le dire plus clairement que la façon dont nous le dit frère Branham ici. Une fois qu'un mouvement de Dieu s'organise, il n'estère plus jamais utile à Dieu. Chaque dénomination a commencé avec une certaine vérité, mais quand les gens commencent à organiser cette vérité, s'estère à cet instant-là que la vie en estère sortie. Il a dit qu'elles ont produit, au début de leur réveil, un porteur d'une certaine partie de la vie de la semence. Mais, quand elles ont formé une organisation, la vie en Esther sortit. J'espère que vous, les gens qui écoutez ce sermon ou le lisez sur Internet, comprenez ce que frère Branham dit ici. N'essayez pas d'organiser ce message. Dès l'instant où vous le faites, la vie de Dieu s'éloigne de ce que vous essayez d'organiser. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'organiser le message? Parce que c'est vraiment ce que nous n'aimons voulons pas faire. Je pense qu'il n'y a personne qui veuille s'organiser de façon à sortir de la vie de la parole. Mais ils le font de toute façon, n'aimons comprenant pas vraiment ce qu'ils font. Afin de mieux comprendre ce que signifie s'organiser, lisons ce que nous dit le dictionnaire, organiser. 1. Rassembler en un tout ordonné, fonctionnel et structuré. Maintenant, il n'y a rien de mal acquis à structurer ou à mettre de l'ordre, ou à rendre les choses fonctionnelles. Par conséquent, jusqu'à présent, ce que nous lisons concernant l'organisation Néhémie ressemble à rien qui serait trop horrible pour que Dieu en soit mécontent. Mais lisons la suite, car les définitions deviennent un peu plus définitives. 2. A. Aménager sous une forme cohérente, systématiser, organiser ses pensées avant de parler. Or, encore une fois, il n'y a rien de mal acquis à présenter la doctrine du message d'une manière cohérente. Et pour ce faire, vous devez le systématiser ou l'assembler de manière ordonnée afin de rendre la présentation de celui-ci plus facile à comprendre. B. Aménager selon un modèle ou une structure désirée. Encore une fois, il n'y a rien ici qui ferait que la vie de Dieu s'en aille. Parce que même la vie de Jésus a été correctement ordonnée et a établi le modèle que tous les autres fils doivent suivre. Mais la prochaine définition commence à donner une certaine clarté sur le danger de l'organisation. 3. Aménager systématiquement en vue d'une action harmonieuse ou unie. Puis il donne des exemples de cette organisation en vue de former une union, ou organiser une grève. 4. A. S'établir en tant qu'organisation, organiser un club. B. Inciter les employés à former ou à adhérer à un syndicat. C. Inciter les employés d'une entreprise ou d'une industrie à former ou à adhérer à un syndicat, organiser une usine. Développer ou assumer une structure organique. Donc, Ce que nous voyons ici est une évolution d'une tentative inoffensive de présenter le message de manière ordonnée, afin que les gens puissent mieux le comprendre, vers une position où cela organise vraiment les gens en une union harmonieuse, qui lie les gens à une valeur fondamentale de croyance et exclut les autres qui n'adhèrent pas à ces croyances. C'est-à-dire ce que chaque fausse doctrine qui s'est glissée dans n'importe quel mouvement de Dieu a fait. Et c'est-à-dire ce qui s'est passé dans ce message avec des mouvements tels que le groupe des tonneristes, et le groupe des deux âmes, le groupe d'écouter seulement en bande, etc. Et remarquez quand ils font cela, la vie de la parole les quitte et ils commencent à établir entre eux une hiérarchie d'hommes dans laquelle si vous n'aimez les écoutez pas, vous êtes considéré comme complètement exclu du groupe. Et quand les gens atteignent ce niveau, ils sont en route pour l'organisation. C'est-à-dire pourquoi Frère Vell a dit, vous n'avez pas besoin d'entendre cela de ma part, mais vous devez prendre position pour cette vérité. Peu importe de qui vous entendez la doctrine, mais vous feriez mieux de l'entendre, car celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Vous n'avez pas besoin de l'entendre de Frère Vell, ni de moi ni de toute autre personne, mais vous feriez mieux de l'entendre et de la croire si vous voulez faire écho à Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a un réel danger chaque fois que vous essayez d'améliorer ce que Dieu a donné par inspiration. Le danger vient quand les gens essaient d'organiser n'importe quel mouvement de Dieu. Et la raison pour laquelle ils organisent un mouvement de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu l'a présenté pour commencer. Et ils essaient ensuite de le façonner en ce qu'ils pensent être une meilleure façon de le présenter. Ils finissent par prendre une parole qui change la vie et en font une parole orientée vers les œuvres. Il suffit d'observer n'importe quel endroit où Dieu a un pasteur ou un docteur vraiment loin, et quand cet homme quitte la scène, les gens essaient de s'en tenir à ce qu'il leur a apporté, et très vite, ils commencent à l'organiser en un ensemble de règles enseignées par un tour de passe-passe de l'homme. Alors la parole devient pour eux règle sur règle, précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, et puis ils retournent dans ce dont ils sont sortis, ce qui était les œuvres. Et si vous pensez que j'ai tort de dire cela, lisez simplement la traduction NIF du chapitre 28 d'Ésaïe. Ésaïe 28, 8. Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n'y a pas un endroit sans saleté. Maintenant, qu'est-ce que le vomi si ce n'est la nourriture d'un autre jour qui s'est mélangé dans l'homme, puis qui a été régurgité. 9. Qui est-ce qu'il essaie d'enseigner? À qui explique-t-il son message? Aux enfants sevrés de leur lait? À ceux qui viennent d'être retirés du sein maternel? Non, je n'y pense pas. Parce que l'apôtre Paul a dit alors que vous devriez être docteur, vous en êtes encore au lait. Non, ceux qui prennent de la voix les choses un peu différemment. Paul a dit que quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais donc comme un enfant et j'agissais d'une manière enfantine, mais quand je suis devenu un homme, j'ai dû mettre de côté la pensée enfantine qui se traduisait par des paroles enfantines et des actions enfantines. Ainsi, la parole du Seigneur à leur égard devient, dis faites et faites, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Remarquez que leur perception de la parole retourne au légalisme, de faire et de n'aimer pas faire. On serait bien alors, c'est-à-dire par des lèvres étrangères et des langues étranges, que Dieu parlera à ce peuple. Alors si Dieu parlera à ce peuple, alors ce qu'il entendra sera, l'ainsi dit le Seigneur, et c'est-à-dire le repos que Dieu réserve à ses élus. L'élu repose sur l'ainsi dit le Seigneur. 12. À qui il dit, c'est-à-dire le lieu de repos, que le fatigué se repose, et c'est-à-dire le lieu de repos, mais ils n'écoutèrent pas. Ah! Nous avons donc un prophète qui a frappé à la chair pendant qu'il prêchait sur le septième sceau, et il a dit en frappant sur cette chair, « S'estère le temps de détente ou repos sous le septième sceau. » Et remarquez ce qu'on nous dit ici dans Ésaïe. Cette langue étrangère apportera le repos mais les gens n'écouteront pas. Et donc s'ils n'écoutent pas, ils n'entreront pas dans ce repos mais reviendront aux œuvres. Et s'estère ce que nous lisons dans le verset suivant d'Ésaïe. 13 Ainsi, la parole de l'Éternel pour eux deviendra, fête et fête, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour qu'ils aillent et tombent à la renverse, afin qu'ils soient blessés, piégés et capturés. Cette formulation Néhémie pourrait pas être plus claire et plus parfaite. On nous dit que parce qu'ils n'écouteront pas la voix du Seigneur, ils refuseront alors le repos et entreront dans des œuvres. Fête et fête, et règle sur règle. Et donc nous voyons une indication très claire d'un peuple qui quitte la vie de la parole, qui libère l'homme des œuvres, et le fait entrer dans le repos. Mais quand il quitte cette parole, ils reviennent toujours aux œuvres. Maintenant, il n'espère pas, dit pas qu'il quitte sciemment la parole de Dieu pour les œuvres. Personne Néhémie fait cela. Mais il Esther dit, 13 alors, la parole de l'Éternel pour eux deviendra, fête et fête, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour qu'ils aillent et tombent à la renverse, et qu'ils soient blessés, piégés et capturés. Vous voyez que la parole du Seigneur pour eux devient des œuvres. En d'autres termes, ils commencent à essayer de le faire par eux-mêmes parce que la vie de la parole les a quittés quand ils ont refusé le repos que Dieu nous a donné en entrant en Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par conséquent, il suffit d'observer n'importe quel mouvement de Dieu et le moment où le ministère que Dieu utilisait quitte la scène. Beaucoup de ceux qui ont suivi ce ministère commenceront à essayer de s'accrocher à ce qui a été enseigné. Mais ce faisant, ils l'organiseront et lorsque la vie s'éteindra, et que le repos sera parti, il s'en suivra toujours les œuvres. Au lieu de prêcher la vie qui Esther dans la parole, les sermons se concentreront sur l'habillement, la conduite et la théologie de la corde à linge, et très bientôt les gens se regarderont les uns les autres et chercheront la faute d'un des autres, puis ils commenceront à se séparer en cliques et en clans. Et une fois que cela s'estère produit, cette œuvre estère sur le point de disparaître spirituellement. Oh! Ils peuvent se retrouver avec plus de gens que le ministère qui reste avec la parole. Mais ce n'estère pas surprenant, parce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 4.27 « Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Et celles qui Esther mariée Esther une épouse. » Vous savez, je Néhémie me laisserai pas de lire ce verset de l'Écriture pour vous avertir de ce qui se passe dans ce message, même aujourd'hui. 9 Qui Esther ce qu'il essaie d'enseigner? À qui explique-t-il son message? Aux enfants sevrés de leur lait? À ceux qui viennent d'être retirés du sein maternel? Je Néhémie pense pas. 10 Car, pour eux, Esther, fête et fête, règle sur règle, un peu ici, un peu là. 11 Très bien alors, si Esther par des lèvres étrangères et des langues étranges, que Dieu parlera à ce peuple. 12 À qui il dit, si Esther le lieu de repos, que le fatigué se repose, et si Esther le lieu de repos, mais ils n'écouteraient pas. Alors, la parole de l'Éternel pour eux deviendra, fête et fête, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour qu'ils aillent et tombent à la renverse, soient blessés, piégés et capturés. Maintenant, dans son sermon le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 64. Il dit au paragraphe 143 combien cette chose est vraiment remarquable. Son trajet dans le grain de blé est bien différent de son trajet dans l'arbre. Dieu a dit de son peuple qu'il était semblable à un arbre. Voyez, la vie descend dans l'arbre, et elle remonte, elle descend et elle remonte. Voyez, elle descend et elle remonte. Mais dans le grain de blé, elle monte à partir de la tige originelle. Dans la tige, l'aigrette, la balle, et ce qu'elle a traversé meurt, alors elle n'est mis peut plus y retourner. Qu'est-ce ce? Ce n'est plus d'aucune utilité. Elle poursuit son chemin vers sa perfection. Amen. Néhémie, voyez-vous pas pourquoi il n'a jamais utilisé une organisation? Il Néhémie peut plus y retourner. Elle est morte. Mais la vie continue à se transmettre de l'un dans l'autre. Voyez, ils introduisent des credos, et ils injectent. Quiconque ajoutera une seule parole, ou retranchera une seule parole, voyez, il n'y a plus accès. C'est la semence de vie qui doit continuer son trajet. Et à chaque époque, après chaque réveil, une fois que les gens s'éloignent de la lumière que Dieu leur a envoyée et rentrent dans les programmes d'œuvre, la vie les quitte et Dieu continue avec sa lumière. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4 et verset 17 que lorsqu'ils perdent la compréhension qu'ils ont de la parole, la vie de Dieu les quitte également. Éphésiens 4.18 Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont, deviennent, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement, l'aveuglement de leur cœur. Donc, parce que leurs cœurs sont aveugles, et qu'ils sont volontairement ignorants alors qu'ils s'éloignent de la compréhension qu'ils avaient, ils se coupent en fait de la vie de Dieu. En substance, ils s'éloignent de la fontaine de vie. Il n'y a jamais de bonne raison d'arrêter de prêcher la doctrine pour revenir aux œuvres, car Christ est la doctrine. Si vous prêchez Christ, le cœur des gens sera rempli de vie et il ne sera pas nécessaire de prêcher une religion de corde à linge. Remplissez une personne de la vie de Dieu et Dieu vivra en elle. Et peu importe ce que vous faites pour nettoyer votre vie, si vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est même pas acceptable pour Dieu. Tout ce genre de justice est comme des chiffons souillés. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, revenons au chef-d'œuvre, et page 144. Frère Branham a dit, 144 maintenant, j'utilise ceci sous forme d'une parabole de l'épouse. Le chef-d'œuvre qui est en train d'apparaître. Comme il y a un chef-d'œuvre qui est tombé, il y a un chef-d'œuvre qui est en train de se lever. Le chef-d'œuvre est tombé à Nicée, Rome. Après Nicée, Rome, elle a suivi un processus, mais voilà qu'elle est en train de redevenir ce chef-d'œuvre, amené à la perfection, parce qu'elle est une partie de cette parole dont il est parlé. Il aura une église sans tache ni ride. Elle n'y sera associée en aucune façon à quelque organisation ou à quelque dénomination que ce soit, à cette chose maudite. Elle est passée par ces choses-là, mais celles-ci n'y seront jamais là. 145 remarqué, la semence monte, cette vie monte, elle n'y retourne pas en arrière. Il n'y aura plus de résurrection après ceci. La vie monte, pour atteindre sa perfection, une résurrection. Remarquez, la balle a produit le leu. Remarquez, la balle expulse la semence originelle. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 3, 146 maintenant. Souvenez-vous, il n'a été expulsé d'aucune autre église, dans la Bible, au long des sept âges de l'église. Combien s'en souviennent, il a traversé chaque âge de l'église, pour continuer, produire autre chose. Mais, avec ceci, ça y est. il n'y a plus rien d'autre. Mais, le locuteur est-il arrivé de nouveau à la perfection? La parole. Voyez, Néhémie retournait pas en arrière. C'est-il quelque chose de tellement différent? Oui. Sans qu'on ne s'était remarqué, alors, la balle, quand elle apparaît, son aspect est-il tout à fait semblable à celui du grain. Mais quand la vie du grain commence à sortir de la balle, pour aller former le grain, l'épouse, la balle s'ouvre et elle excommunie le grain. Pas vrai? La nature, et c'est exactement ce qu'elle a fait. 148 dans Apocalypse 3. Nous voyons que l'âge de l'église de Laodicée l'a mis à la porte. Or, voyez-vous, ce n'était pas arrivé dans les autres âges, parce que quelque chose d'autre devait encore être produit. Elle n'a fait que passer de l'un à l'autre, continuer son trajet. Je vous le dis, depuis le début, il n'y a plus d'autres dénominations qui vont venir. Nous sommes à la fin. Et ils l'ont mis à la porte, pourquoi? Parce qu'il y lit la parole. De nouveau. Il est comme celui qui est tombé, là. Il est la même doctrine qui était apparue au commencement. 149 Et quand la parole semence commence à se développer, la balle la repousse. La vie quitte tous les autres, pour qu'ils la suivent. Voilà les vrais croyants, ils suivent la vie partout où va la vie. Maintenant, remarquez une fois de plus que frère Branham dit que les vrais croyants Néhémie s'organiseront jamais, mais qu'ils suivront cette vie partout où elle ira. Frère Vell m'a dit dans son salon il y a quelques années, ils disent que lorsque je serai parti, il en sera fini de cet enseignement. Mais ils ont tort. Parce qu'aussi longtemps que le Saint-Esprit sera ici, il y aura des docteurs. Parce que le Saint-Esprit est le docteur. Et remarquez ce que frère Branham a dit, il est la parole. De nouveau. Il est comme celui qui est tombé. Là. Il est la même doctrine qui était apparue au commencement. Il doit donc s'agir de doctrine. Parce que si vous vous concentrez sur la doctrine de Christ, vous avez Dieu. Point. Et Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Et le mot a été traduit du mot grec écho. Et donc celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie. Et celui qui fait écho à la doctrine de Christ fait écho à Dieu lui-même. Ainsi, au fur et à mesure que la vie avancera, la doctrine de Christ continuera d'être enseignée par ceux qui ont été eux-mêmes fidèlement enseignés. Et quand une église cesse d'enseigner la doctrine et commence à se concentrer sur les règles et l'ordre et sur fête et fête, elle a perdu son premier amour et a quitté la doctrine de Christ et quand elle le fait, elle n'émit fait plus écho ou n'émit reflète plus la vie. Ni n'émit fait écho ni n'émit reflète Dieu. Et Dieu est la vie. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 3.4 qu'en Christ, votre vie, phanero, se manifestera dans son vrai caractère, alors vous phanero aussi, vous vous manifesterez aussi dans votre vrai caractère, avec lui dans la gloire. Et nous savons que cette doxa est l'opinion, le jugement et l'évaluation de Dieu. Par conséquent, lorsque Christ qui est notre vie apparaîtra, notre vie se manifestera également dans son vrai caractère, car nous savons être destinés à recevoir en nous la pensée de Christ. Dans les ondes du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65, M. Frère Branham dit, 233 maintenant, vous retournerez en arrière pour essayer de revivre. Que se passerait-il si cette vie redescendait? Est-il ce que vous pensez que si cette vie parlait, qu'elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, qu'elle retournerait pour y revivre? Elle n'aimait le fait jamais. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui n'ont pas continué à avancer avec la parole, alors qu'elle s'accomplissait. Ils sont morts, finis, et les épines et les chardons, qui sont près d'être rejetés, dont on finit par y mettre le feu. Pas vrai? Maintenant, je vais me dépêcher aussi vite que je le peux. 1 Jean 1.2 Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Les morts n'aiment ni grandissent pas. Ils n'aiment ni manifestent pas la vie non plus. Et ils n'aiment ni peuvent certainement pas changer non plus. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3.18 « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Maintenant, l'apôtre Paul nous a dit ici que lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole, nous sommes changés en l'image que nous voyons dans le miroir, l'image Esther Christ et Christ Esther notre lumière. Et puis il nous dit que nous sommes changés d'image en image et de gloire en gloire, de doxa en doxa, qui Esther l'opinion, l'évaluation et le jugement de Dieu. Il nous dit donc que nous sommes changés à l'image de Christ, qui Esther notre lumière et que nous sommes changés d'une opinion à une autre et à une autre jusqu'à ce que nous entrions dans la pensée de Dieu. Par conséquent, la vie avance et ceux qui marchent dans la lumière continuent à marcher dans la lumière comme il Esther dans la lumière. Il n'est aimé regarde pas en arrière, car quiconque conduit en regardant dans le rétroviseur finira par s'écraser. Prenons juste une autre écriture pour vous montrer comment la personne qui se dirige vers l'organisation meurt sur place spirituellement. Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12 Pour le perfectionnement, la préparation et la maturation des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, l'instruction du corps de Christ. 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et rappelez-vous qu'il nous a dit au verset 8 qu'il n'y a qu'une seule foi et que s'estère la foi du seul Seigneur. Et frère Branham a dit que si vous avez plus d'un Seigneur, vous avez plus d'une seule foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Jésus-Christ Esther le même hier, aujourd'hui, et éternellement Psaume 6 août 55-15, eh bien, parfois aujourd'hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses, oh, c'est Esther contraire à ma foi. Notre foi n'enseigne pas cela. Il n'y a en réalité qu'une seule foi. C'est Esther ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi et c'est Esther la foi du Seigneur Jésus-Christ. Le Gazam, la sauterelle, le Gelec et le Hasildim 23 août 59-79 maintenant, non pas les gens disent, eh bien, c'est Esther contraire à ma foi. Il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Vous pouvez avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre ardemment, c'est Esther plaider en faveur de cela, prendre position pour cela. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. 80 Quand ont-ils été appelés saints? Quand ils ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés. Ils furent appelés saints. Eh bien, Jude dit, un frère, le frère de lait de Jésus, je veux que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Néhémie laissait jamais tomber cette foi. 81 Et la foi des saints n'était pas dans des credos, ni dans les dénominations, ni dans les bâtiments de l'Église, ni dans les associations, mais c'était dans la présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles. Toutes les grandes promesses faites par Jésus, cette première église s'y accrochait. C'était le lien vital. Combattre ardemment pour la foi d'hymne 23 janvier 55 S2 dans le livre de Jude nous trouvons ces versets. Au verset 3 du livre de Jude. Bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Eh bien, je crois que ce livre a été écrit en l'an 66 de notre ère. Et c'était donc 33 ans après la Pentecôte. Et Jude s'adresse à l'Église de l'époque, les exhortant à combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pouvez-vous jamais imaginer qu'un que l'Église du glorieux Saint-Esprit, qui avait été inaugurée et immergée en Christ par le Saint-Esprit, pouvait être si embrouillé en si peu de temps que le prophète ici leur a dit de combattre ardemment pour la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je dois faire attention ici, parce que nous avons un grand service qui suit. Ce soir, je vais prier pour autant de gens que je pourrais faire passer dans la ligne de prière. Et je vous demanderai de vous tenir prêt en ayant la foi, et en étant dans la prière. Eh bien, le prophète dit ici de combattre ardemment pour la foi, pas une foi, mais la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Or, bien des gens disent, eh bien je pourrais aller à cette réunion, mais c'est faire contraire à ma foi. Il n'existe qu'une seule foi, une seule foi, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul baptême. Le croyez-vous? Une seule foi, et cette foi, c'est Esther dans le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, certaines personnes disent, eh bien, je suis méthodiste. C'est faire contraire à ma foi. Je suis catholique, et c'est faire contraire à ma foi. Il n'existe qu'une seule foi. Il pourrait y avoir différentes églises dénominationnelles pour représenter cette foi, mais il n'existe qu'une seule foi. Or, Jude a dit que nous, bien entendu, ici, il s'adressait principalement à l'Église de ce jour-là, nous devrions plutôt combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui essaient de me critiquer de façon virulente sur Internet et sur Facebook, parce que je dis qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et une seule foi et qu'une seule foi Esther la foi de ce seul Seigneur. C'est Esther ce que le prophète et la Bible ont dit. Paul a dit cela. Et j'ai dit que s'ils croient en deux seigneurs, ils devront aussi croire en deux Christ. Et vous savez quoi? Ils me fustigent également pour cela, et ils enseignent qu'il y a deux Christ, le Père et le Fils. Je me demande ce que je peux dire pour qu'ils reconnaissent et admettent qu'ils sont trinitaires. Ils le sont à une personne près. Vous savez, Jésus n'était pas Christ, celui qui oint. Christ, lui-même, celui qui oint, l'Esprit de Dieu est à rentrer en Jésus faisant de lui Christ ou loin de Dieu. William Branham nous a enseigné, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité habitait dans le corps. Ils croient en deux Christ et en deux Seigneurs, alors, ils doivent également croire en deux Dieu. Frère Vell a corrigé leur pensée sur deux Seigneurs, et il m'a dit que lorsqu'un frère de la Nouvelle-Zélande a demandé si Dieu était en Christ et Christ était en Jésus, y a-t-il alors deux Christ? Et Frère Vell a dit, combien les gens peuvent être stupides. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Les uns du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 et 257 maintenant. Remarquez. C'est Esther Jésus qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après lui, qui dit, maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. Et puis ils se demandent, ils disent, pourquoi vous en prenez-vous à ces femmes? Oh! Bonté! Mais, ils n'aiment, ils le voient même pas. Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce, loin des choses, comme, de, vous voyez, et, de même que Jannès et Jambrès. Matthieu 24.24. De faux Christ, de faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Or, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même, d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Pas une foi, la foi, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Vous n'aimez pouvez pas avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous n'aimez pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un, pour le Père, et pour le Fils, et le Saint-Esprit. Il y a un seul baptême, Jésus-Christ. C'est vrai. Vous voyez, un faux baptême. 14. Afin que nous n'aimions soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Sestère que vous n'aimez, devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence, la compréhension obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui estère en eux, à cause de l'endurcissement, l'aveuglement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ? Prions. C. Grâce Fellowship Tabernacle. Avril 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à brioncocourec@yahoo.com.